Bonjour Hervé Mariton.
Bonjour.
Trois députés de droite sont en Syrie depuis hier pour rencontrer Bachar el-Assad, le président syrien, parmi lesquels un député de chez vous, les Républicains, il s'agit de Xavier Breton. Est-ce que vous approuvez leur initiative ?
Non. Je pense qu'il est important, dans la situation actuelle, qu'il y ait des discussions et des contacts avec la Syrie et avec le gouvernement syrien. En même temps, je condamne le régime du président Assad et je comprends que la France, et je soutiens nos forces lorsque la France frappe en Syrie. Et il y a quelque chose de très bancal à ce que des parlementaires de la République soient dans un pays dont le territoire est aujourd'hui frappé par des attaques et des tirs français.
Mais ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad qui est visé par les frappes.
Non. Mais il se trouve que les frappes se font sur le territoire syrien et que je trouve qu'il y a quelque chose de bancal de ce fait. Il ne peut pas y avoir 40 diplomaties. Je suis un opposant. Je suis un opposant résolu. Pour autant, je considère que c'est l'exécutif qui est en charge de la diplomatie. Il est important que nous ayons un débat très libre sur le territoire national. Je pense que ces déplacements, en particulier dans les périodes intenses, je vous dis, les frappes qui se font en Syrie contre Daesh, il est important de dissuader des collègues qui voudraient poursuivre des déplacements de cette nature.
Le chômage a baissé de 0,7% au mois de septembre. C'est l'un des meilleurs chiffres depuis assez longtemps. François Hollande est-il en train de réussir son pari d'inverser la courbe du chômage ?
François Hollande rendra probablement et malheureusement les clés de l'Élysée avec un chômage très aggravé par rapport à ce qu'il était quand il est rentré à l'Élysée. C'est ça le jugement politique qu'il faudra opérer en 2017. Quand on est engagé dans l'action, quelle qu'elle soit, et en politique aussi, l'important, c'est quand on est à la fin de sa mission que les choses aient avancé. Or, avec François Hollande, elles auront reculé sur un enjeu particulièrement grave et préoccupant, qui est celui de l'emploi. Le chômage aura été considérablement aggravé. Ensuite, est-ce qu'il y a eu là une amélioration ? La réponse est oui. Et lorsqu'il y a une amélioration sur le front de l'emploi, je m'en réjouis. Je ne suis pas un opposant suffisamment caricatural pour me plaindre d'une bonne nouvelle et d'un bon chiffre. C'est un bon chiffre, je m'en réjouis, dans un contexte global, qui est celui d'une politique de l'emploi marquée du signe de l'échec.
Donc la politique du gouvernement n'est pour rien dans cette amélioration du chômage ?
Le gouvernement mène une politique économique qui aura privé la France de l'essentiel des bienfaits de la phase actuelle du cycle économique. On est dans le cycle économique mondial, dans une période favorable depuis plusieurs mois, depuis de nombreux mois.
Pétrole et taux d'intérêt en particulier.
Pétrole, taux d'intérêt en particulier, et puis s'agissant de la zone euro, le taux respectif de l'euro et du dollar. Eh bien, beaucoup de pays ont profité de cela depuis longtemps et de manière intense. La France améliore très modestement sa situation, beaucoup plus tard que les autres, et beaucoup plus lentement, beaucoup plus mollement que les autres.
Le Premier ministre Manuel Valls a accusé hier les candidats Les Républicains à la primaire pour la présidentielle de mentir aux Français en matière de fiscalité. C'est à vous qu'il s'adressait, vous qui veniez d'accuser François Hollande, lui, d'avoir menti en matière de fiscalité aux Français. Comment allez-vous faire, a dit Manuel Valls, comment allez-vous faire pour financer à la fois des priorités comme la sécurité, la défense et l'emploi, tout en voulant baisser les dépenses publiques de plus de 100 milliards, comme tous les candidats de votre parti à la primaire le proposent. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ? Comment vous allez faire ?
D'abord, il y a effectivement mensonge de la part de François Hollande qu'il y a un an pile s'engager à ce que aucun Français ne paye davantage d'impôts en 2015. Or, c'est faux. Le gouvernement a beaucoup flatté et communiqué autour de quelques baisses d'impôts sur le revenu, sur les classes moyennes, le début des classes moyennes. Mais la réalité est qu'en particulier au prétexte de la fiscalité de l'écologie, il y a des augmentations considérables et sur tous les produits énergétiques, tous, que ce soit l'électricité, les hydrocarbures, et au global, une augmentation très important de la fiscalité des ménages qui atteint un taux historique le plus élevé jamais connu en France. Deuxièmement, je suis candidat aux primaires de la droite et du centre. J'ai proposé, je l'avais fait quand j'étais en charge du projet de l'UMP, un plan précis d'économie budgétaire. Ça veut dire ne pas augmenter les effectifs de la fonction publique comme le gouvernement le fait. À un moment, il faut choisir. Ça veut dire, dans une réforme du chômage, avoir le courage de toucher un quelque chose qui est un tabou absolu pour la gauche, qui est le régime des intermittents du spectacle, qui est un régime injuste et ruineux. Ça veut dire une véritable réforme des retraites, pas les mesures minuscules qui sont approuvées par le gouvernement, les mesures insuffisante des partenaires sociaux la semaine dernière, qui d'ailleurs, davantage que des économies, augmentent les cotisations. Est-ce qu'il est possible, sur un quinquennat, ça prend 5 ans, de réduire les dépenses publiques d'une centaine de milliards d'euros en France ? La réponse est oui. C'est indispensable pour la restauration de la confiance, c'est indispensable pour baisser les déficits Et oui, je l'assume, ça fait partie du pacte de confiance pour baisser les impôts.
Pour baisser les impôts, enfin en tout cas pour atteindre votre objectif, vous proposez la mise en place de ce que l'on appelle une flat tax,
oui.
C'est-à-dire un impôt à taux unique, non progressif. Est-ce que vous trouvez que c'est juste ce système ? C'est-à-dire
oui.
qu'au fond, on ne paye pas forcément en fonction de ses revenus.
Si, on paye en fonction de
oui,
ses revenus.
Mais enfin, ça n'est pas progressif.
Ah ben, la Déclaration des droits de l'homme dit que la charge publique doit être répartie également en raison de ses capacités contributives. En raison, en mathématiques, ça veut dire en proportion. C'est un système de quasi-flat tax, si je peux me permettre. Parce que sur les premiers milliers d'euros de revenus, en part fiscale, je maintiens le système du quotient familial, en part fiscale par an, jusqu'à 8000 euros de revenus en part fiscale, je mets un taux à 2%. Et ensuite, je passe à 15%. Aujourd'hui, les contribuables les plus riches profitent de manière remarquable des niches fiscales, optimisent tout le dispositif fiscal existant. Ils ont les conseillers pour ça et le taux finit par ne pas être
donc
progressif.
Donc vous voulez supprimer les niches fiscales ?
Je supprime les niches fiscales et je construis un système qui est beaucoup plus intelligent, qui est plutôt que ce soit l'État qui vous dise ce qu'il faut faire, ça s'appelle niche fiscale. Je dis que le contribuable sur 5% de son impôt doit être en capacité de dire à l'État ce que l'État doit faire. J'ai envie qu'il y ait plus d'argent sur l'éducation, je dis que mon 5% va là-dessus. Je veux qu'il y ait davantage pour les Restos du cœur, je veux que les 5% aillent là-dessus. Et la flat tax, c'est un impôt adapté à la compétition du monde. J'étais invité par une université à Washington la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Eh bien, nous avons discuté de cela. J'ai un collègue député de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, aux Antilles. À Saint-Martin, c'est un territoire exemplaire, en quelque sorte, de la compétition mondiale. Parce que le territoire, vous le savez, est partagé avec la partie hollandaise. Eh bien, il est dans un contexte immédiat de compétition fiscale et il propose d'expérimenter la flat tax dans la communauté d'outre-mer de Saint-Martin.
La ministre du Travail va présenter la semaine prochaine, elle devait le faire aujourd'hui mais ça a été reporté, ses propositions de réforme du Code du Travail. C'est un sujet sur lequel les Républicains travaillent depuis des mois. Qu'est-ce que vous espérez du gouvernement dans ce domaine ?
Mais le gouvernement manque d'ambition là-dessus et il n'y arrivera pas parce qu'il y a un changement fort auquel il ne se réconcilie pas. Et la droite n'est pas assez audacieuse non plus. Aujourd'hui, le Code du Travail est mauvais. Il est peint en rouge, si on veut faire bref, vu de gauche. Mais on ne fera pas un Code du Travail excellent en en changeant la peinture. On n'a pas besoin de Code du Travail, en réalité. Et ce que je souhaite, c'est que dans chaque entreprise qui y parvienne,
que des
et
accords
en particulier
d'entreprise...
par voie de référendum, je vais le mois prochain chez Smart regarder ce qui s'est passé avec leur référendum. Je trouve ça très intéressant et très fécond. Que par voie d'accord d'entreprise, par voie de référendum, on définisse les règles librement. Il y a un ordre social public européen qu'il faut respecter, pas plus de 48 heures par semaine. Mais ensuite, si dans une entreprise, si à RFI on veut que ce soit 32 heures ou 42 heures, eh bien libre à vous d'en discuter et de voter là-dessus. Et là où il n'y a pas d'accord, il continuerait d'y avoir un code du travail, mais simplement supplétif.
Un petit mot des questions climatiques, puisque vous êtes un peu iconoclaste sur ce sujet. Vous estimez que le changement climatique n'a pas que des inconvénients, en tout cas qu'il n'est pas stupide de le dire. Vous reprenez à votre compte ce qu'a dit le monsieur météo de France 2, qui est aujourd'hui mis à l'écart de la chaîne pour la publication de son
bouquin. D'abord, on va auditionner tout à l'heure la présidente de France Télévisions. Il est scandaleux qu'il soit menacé de licenciement. C'est scandaleux. C'est une atteinte grave à la démocratie et à la liberté de penser. Et je n'imaginais pas que cela puisse se produire en France. Ensuite, je suis scientifique de formation, je suis ingénieur. Et comme d'autres, je constate que le climat est en train de changer. Et je suis parfaitement conscient que c'est un enjeu grave. Et cet enjeu, en même temps, on doit être capable de l'aborder librement. L'essentiel des conséquences du changement climatique sont des effets négatifs. Et il faut là-dessus s'alerter. Et c'est extrêmement important. Et puis si un certain nombre de personnes ont envie de poser la question avec un éclairage un peu décalé, y compris parce qu'il peut y avoir à la marge, et pour l'anecdote, un certain nombre de conséquences qui ne sont pas que négatives, il faut qu'ils aient la liberté de le faire. Jean-Louis Borloo avait très bien dit il y a quelques années, faisons gaffe, réagissons face au changement climatique, parce que sinon à un moment, ces effets peuvent s'imposer à nous dans un débat qui ne serait plus démocratique. Je souhaite qu'on n'ait pas anticipé cette prévision.
Pas d'intégrisme écologique.
En toute chose, l'excès nuit, en toute chose, l'intégrisme nuit. Il faut en tout cas de la liberté du débat. Lutter contre le changement climatique, oui, mais que chacun puisse défendre sa position. La liberté, c'est mon combat. Oui. Ma campagne pour les primaires, c'est bien celle de la liberté et des valeurs.
Merci Hervé Mariton.